chers auditeurs, vous êtes sur Radio Grand Ciel et vous écoutez votre émission Caméléon
avec un K. Alors Mira, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Aujourd'hui, nous allons parler du lycaon, ce canidé africain, et Marie nous parlera de la Saint-Patrick. Et nous commençons donc par le lycaon. Dans la mythologie grecque, c'est un sanguinaire roi d'Arcadie qui finira changé en loup par Zeus. Mais aujourd'hui, c'est du canidé africain du même nom que je vais vous parler. On l'appelle aussi loupin, lycaon pictus, pin P-E-I-N-T, en raison des taches colorées jaunes, noires, blanches ou grises sur son pelage ras. Sa fourrure est très clairsemée, si bien qu'on voit sa peau sur certaines parties du corps. Pour se protéger des insectes de la chaleur, il utilise des flaques de boue dans lesquelles il se roule. Cependant, la répartition des couleurs est propre à chaque animal et leur sert à se reconnaître. Seul le noir du museau et le blanc de l'extrémité de la queue sont communs à tous. Il se distingue notamment des autres canidés par le fait qu'il n'a que 4 doigts à chaque patte, alors que les autres membres de sa famille en possèdent 5 aux pattes postérieures. C'est un animal nomade, endémique d'Afrique subsaharienne, capable de s'adapter à une grande variété d'habitats, qui ne se fixe que lorsque les petits naissent, une fois par an, dans des terriers abandonnés par d'autres animaux. Mais c'est un animal qui a très mauvaise réputation. On voit en lui un animal impitoyable et surtout nuisible, et de ce fait aujourd'hui très menacé. Même des auteurs comme Victor Hugo ou René Char le décrivent dans certaines de leurs œuvres sous un jour très défavorable. Il a longtemps été chassé, empoisonné, exterminé, bref, la vie n'est pas rose pour le lycaon. Pourtant, il n'est probablement pas plus méchant que d'autres animaux comme les lions ou les tigres qui n'ont pas une aussi mauvaise réputation. Mais c'est en partie à cause de sa technique de chasse que le lycaon n'est pas très populaire. La meute cherche à isoler une proie du troupeau, de gazelles, gnous ou impalas principalement, des animaux qui sont tous plus gros que lui, puisqu'ils ne mesurent que 70 cm au garrot et pèsent entre 20 et 30 kg, et à l'épuiser en se relayant pour le poursuivre pendant plusieurs kilomètres. La proie, si elle n'est pas déjà évanouie ou immobilisée, est attrapée en pleine course par un des lycaons, et le reste de la meute se jette alors sur elle, pour la dévorer avant qu'elle ne soit morte. Les lycaons essayent alors d'avaler un maximum de viande, quitte à disputer un morceau à un autre de ses chiens. Mais bon, disputes sont quand même rares, et ils ne se blessent pas. Les membres de la meute qui sont partis chasser peuvent alors régurgiter de la nourriture pour les petits, ou les plus vieux ou les malades, qui n'abandonnent pas. Ils peuvent vivre en solitaire, mais plus souvent, les lycaons vivent en meute très organisée, avec une hiérarchie claire. Il y a un mâle et une femelle alpha qui sont les seuls à avoir des petits. Une dizaine de ces chiots de lycaon vraiment très mignons naissent alors chaque année. Plus tard, arrivés à âge adulte, la moitié des mâles migreront, tandis que les autres resteront pour assurer la continuité de la meute qui compte une dizaine d'individus, mais on a déjà vu des meutes avec une quarantaine de lycaons. Les femelles, elles, partiront toutes à la recherche d'un autre groupe. Les membres de la meute se rassemblent à peu près 2 fois par jour. Au terme de ces rassemblements, les animaux vont décider de partir ou non, à la chasse par exemple. Et pour prendre une telle décision, les lycaons vont voter. Comment votent-ils ? Eh bien, ils éternuent. Selon une étude menée il y a quelques années, sur 5 meutes de lycaons au Botswana, après avoir observé 68 rassemblements, des scientifiques ont remarqué qu'en effet, le nombre d'éternuements minimum est nécessaire pour que la demande de départ soit validée. Mais attention, si c'est un dominant qui fait cette demande, elle n'est jamais refusée. Seuls, à peu près 3 éternuements sont nécessaires pour que le groupe se déplace. Par contre, si c'est un membre de faible rang, il en faut au moins 10. Le nombre d'éternuements moyen est en fait de 7,8. Ils sont donc parmi les canidés les plus sociaux qui existent. Et cela leur réussit bien, puisqu'ils sont l'un des meilleurs prédateurs d'Afrique. 80% des traques s'achèvent par la mort de la proie, contre seulement 10% pour les lions.
Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Saint-Patrick, qui a lieu chaque 17 mars, jour de la fête nationale irlandaise. Si nous devions résumer cette journée en trois mots, ce serait bière, musique et danse. Ce moment exceptionnel se célèbre désormais dans le monde entier, mais plus particulièrement en Irlande évidemment, aux États-Unis et au Canada, qui met l'Irlande et son patrimoine culturel à l'honneur. Les origines de cette fête nationale. La Saint-Patrick est une fête populaire d'origine irlandaise qui permet aux Irlandais de célébrer leur histoire et leur culture. Comme je l'ai dit précédemment, elle se déroule le 17 mars de chaque année. Déclarée fériée depuis 1903, cette journée est avant tout un événement festif et patriotique qui célèbre l'Irlande à travers toutes ses facettes. Elle tient son nom, Saint-Patrick, d'un Écossais du nom de Maywin Suckat, qui sera bien plus tard désigné comme le nom de Saint-Patrick. Cet homme du 5e siècle est connu pour avoir converti l'île d'Irlande au christianisme. Un tour de force pour l'époque et qui a véritablement façonné l'Irlande d'aujourd'hui. En effet, le pays est de nos jours majoritairement catholique. Plus précisément, Maywin Suckat est né vers l'an 385 en Écosse. Fils d'un certain centurion romain originaire de Grande-Bretagne. Élevé à l'âge de 16 ans par des pirates, Maywin est alors vendu comme esclave à un druide dans l'actuel Ulster, en Irlande. Durant 6 années consécutives, il devient berger pour le compte d'un chef de clan irlandais. À cette époque, il découvre la religion et devient rapidement un chrétien pratiquant. En 409, il parvient à s'échapper après que Dieu lui ait demandé, dans l'un de ses rêves, de rejoindre le rivage et de s'embarquer sur un bateau. Il rejoint ainsi les côtes anglaises et prend la décision de devenir prêtre. Quelques années plus tard, il gagne les îles de Lérins, près de Cannes, en France, et s'installe au monastère de Saint-Honorat, où il s'y consacre à des études théologiques pendant 2 années. C'est alors que le pape Célestin, Premier, lui ordonne de retourner en Irlande dans le but d'évangéliser le pays, de faire face aux druides et de convertir les Irlandais à la religion chrétienne. Fidèle à ses engagements, il accepte sa mission et retourne dès 411 en Irlande pour tenter d'évangéliser ses habitants et sortir les Irlandais de leur « errance » entre guillemets druidique, pour les convertir aux préceptes chrétiens. La légende veut d'ailleurs qu'il ait utilisé le trèfle irlandais à 3 feuilles pour expliquer le concept de Sainte Trinité aux seigneurs du royaume d'Irlande en vue de les convertir, ce qui explique d'ailleurs pourquoi le trèfle est un symbole cher à l'Irlande. Après de longues années d'évangélisation, il se retire à Dunpatrick, où il meurt le 17 mars 461. L'anniversaire de sa mort devient alors le jour de la fête nationale. Fêtez tous ensemble la fierté d'être irlandais. De nos jours, la fête a lieu essentiellement dans la rue et les Irish pubs, lieu où vous pouvez trinquer en compagnie d'Irlandais chaleureux et festifs. Au programme, parades, concerts, sessions de musique traditionnelle en pleine rue, dégustation de bons petits plats irlandais et pains de Guinness ou autres bières irlandaises. Possibilité bien sûr de danser, chanter et faire la fête, peinturlurée en vert, déguisée en leprechaun ou simplement déguisée en Saint-Patrick. Ici, personne ne juge, les Irlandais ne se prennent pas au sérieux, et c'est tant mieux. Tout un programme qui démontre la simplicité et la chaleur festive des Irlandais, toujours très attachés à leur pays. Surtout, ne manquez pas une Saint-Patrick à Dublin, c'est là où tout se passe. Et tout y est grandiose, ne manquez pas le quartier de Temple Bar, assistez à la grande parade sur O'Connell Street, vous serez émerveillés par tant de débauches de moyens. Surtout rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'être irlandais pour célébrer la Saint-Patrick. En Irlande, les habitants adoptent sans aucun problème les Irlandais de cœur. Alors n'hésitez pas à vous joindre à la fête, ils n'en seront que plus fiers. La Saint-Patrick dans le monde. Les États-Unis, qui comptent énormément d'Irlandais suite aux immigrations de la Grande Famine, fêtent également l'événement, notamment les villes de Boston ou encore Chicago. Cette dernière n'hésite pas à fêter la Saint-Patrick en teintant sa rivière, la Chicago River, d'un vert éclatant. Quant à New York, c'est là où la fête prend des dimensions impressionnantes, évidemment. La fête se déroule essentiellement sur la 5e avenue. C'est là que se réunissent plusieurs centaines de milliers de New-Yorkais, tous venus assister à la grande parade de la Saint-Patrick. Chars, défilés en tout genre, l'événement fait partie des moments les plus attendus chaque année par des milliers d'Américains. Fêtez l'Irlande près de chez nous. Quant à la France, nombreux sont les pubs à célébrer l'événement. Quelques concerts sont également programmés par quelques villes et municipalités, l'occasion de participer à la fête sans pour autant être en Irlande. D'ailleurs, je vous invite, si vous souhaitez fêter la Saint-Patrick, à vous rendre le 14 mars à l'Agora de Vernouillet, où une ambiance pub sera créée. En effet, vous pourrez jouer aux fléchettes et assister à un concert de Quigg, groupe composé de 5 Irlandais qui font un parfait mélange de la musique traditionnelle et moderne irlandaise à l'intérieur de musiques telles que Passion Zero. Mira et moi avons d'ailleurs hâte de nous y rendre.
C'était Caméléon avec un K. Vous pouvez nous retrouver sur Internet, sur Instagram et sur le site de Radio Grand Ciel, radiograndciel.fr. Et bien, au mois prochain.